À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. C'est le mot d'ordre de cette 34e édition des semaines d'information sur la santé mentale. Elle a lieu du 9 au 22 octobre avec une forte déclinaison dans le Puy-de-Dôme. De nombreux événements sont organisés pour favoriser l'engagement pour la santé mentale. Un sujet souvent invisible mais qui pourtant concerne énormément de monde. Car comme le rappelle l'Organisation Mondiale de la Santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ça mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui avec nos trois invités. Pour commencer, Sandra Deniol-Grasset, coordinatrice du Conseil local de santé mentale à la Direction des Solidarités au service santé publique de la ville de Clermont-Ferrand. Bonjour à vous Sandra.
Bonjour.
Il y a également avec nous Angélique Voisin, coordinatrice des J'aime des Dômes, le groupe d'entraide mutuelle sur le département. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Et Laurent Charles, président de la délégation UNAFAM 63, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci à vous trois d'être présents sur RVA. On va parler ensemble de cette semaine qui en fait sont deux semaines ici dans le Puy-de-Dôme de santé mentale qui a démarré le 9 octobre. Alors selon l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est un peu une organisation référente, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc là forcément on précise sur la santé mentale pendant ces deux semaines. Pourquoi selon vous, et là j'aimerais bien vous poser la question chacun individuellement, c'est important aujourd'hui de parler de santé mentale et d'exposer publiquement, médiatiquement, ce sujet-là?
Oui, mais la santé mentale, en fait, il y a trop souvent une confusion entre maladie mentale et santé mentale. Alors que la santé mentale, c'est vraiment un état effectivement de bien-être psychologique qui concerne donc tout le monde, à tous les âges de la vie, dans tous les milieux de vie. Donc en parler, c'est aussi lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques, mais aussi permettre à chacun de comprendre que sa santé mentale est précieuse et qu'il a le pouvoir d'agir en fait pour la maintenir la plus satisfaisante possible.
Vous parliez de différence justement entre santé et maladie mentale. Cette différence, elle est importante à comprendre pour bien se dire que tout le monde est concerné par sa santé mentale et qu'il faut la favoriser, la mettre en avant.
Oui, quand bien même il y a une maladie psychique, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est pas la fin du monde. Donc effectivement, il y a aussi cette question de déstigmatiser les troubles psychiques, mais avant ça, de faire de la prévention et chacun est à même de prendre soin de sa santé mentale pour éviter d'être en souffrance ou éviter qu'un trouble psychique puisse se déclencher.
Alors on va justement parler aujourd'hui de cette question de santé mentale et de comment aussi on prévient. Est-ce que vous avez tout de même l'impression qu'on en parle de plus en plus de ces questions-là de santé mentale, Angélique ?
Oui, complètement. Moi, je trouve que depuis la période du Covid, on a de plus en plus parlé de la santé mentale. C'est quelque chose qui est moins tabou qu'avant. Et maintenant, on ose dire aussi qu'on a besoin de prendre soin de soi, ce qui n'était pas le cas avant.
Ça a été un tournant, ces confinements successifs. En tout cas, dans la prise de conscience qu'il faut soigner, chérir cette santé mentale.
Moi, j'ai eu l'impression que ça a eu un impact assez important, oui.
Sandra ?
Oui, je pense aussi qu'on a pu voir que n'importe quelle personne dans n'importe quelle circonstance ou milieu social était aussi concernée par les difficultés et la souffrance psychique.
Laurent, j'aimerais bien aussi vous écouter sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet qu'on prend de plus en plus au sérieux, notamment vous à l'UNAFAM, quel est votre sentiment ?
Au niveau de l'UNAFAM, on a un regard complémentaire, mais un petit peu plus sensible, puisque l'UNAFAM est concernée par la maladie psychique de ses proches, que ce soit des enfants, des frères, des sœurs, des parents. Notre préoccupation, c'est alors à la fois que l'on parle bien de la maladie psychique, des fois dans les médias. Quand on parle de maladie psychique, c'est un petit peu malheureusement stigmatisant. On parle de schizophrénie en parlant de personnes qui peuvent être dangereuses. Or, c'est comme disait Sandra, c'est important de savoir que une maladie psychique peut être c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grave, mais c'est pas complètement à la fin du monde et que ce type de maladie se soigne. Et on peut, non pas en guérir, mais vivre avec, on peut se rétablir. Et ça, c'est un message qu'il faut, c'est important de le faire passer.
Pourquoi c'est si stigmatisé aujourd'hui ? Par peur, par méconnaissance ?
Je pense par méconnaissance, c'est, je crois que les fous, entre guillemets, ont toujours fait peur. Et donc, c'est vraiment une question de méconnaissance, une question de culture. Et c'est pour ça que c'est complètement important d'en parler. Et à chaque fois de dire la maladie, ce type de maladie se soigne. Mais c'est vraiment culturel, je crois. Et c'est pour ça que les semaines d'information sur la santé mentale sont si importantes parce que cela permet de parler, entre autres, des maladies. Pas que, comme cela a été souligné.
vous tous et vous toutes autour de la table, vous parlez à l'année de ces sujets-là. Et là, pendant ces deux semaines, on concentre forcément l'action publique. Mais vous avez tous des actions qui permettent de favoriser ça, et notamment au GMDDOM, Angélique Voisin, ces groupes d'entraide mutuelle qui pendant toute l'année, à trois endroits du Puy-de-Dôme, Clermont, Cournon et Issoire, pour l'instant, favorisent ces discussions, ces échanges-là. Concrètement, il se passe quoi au sein de ces groupes d'entraide mutuelle? On se dit quoi?
On se dit plein de choses. Le GEM, en fait, l'objectif du GEM, c'est vraiment j'ai une maladie psychique, j'ai une fragilité psychique où je suis simplement isolée. J'ai besoin de sortir de chez moi, de rencontrer du monde, et donc je peux aller au GEM. Donc le but du GEM, c'est vraiment rencontrer des personnes et faire des activités, puisque des activités sont proposées tous les jours, du lundi au vendredi, donc que ce soit à Cournon, à Clermont ou à Issoire. Et les personnes viennent vraiment quand elles le souhaitent pour prendre un café, pour discuter, pour faire de la peinture, pour aller au cinéma, pour aller au bowling. Enfin, il y a vraiment un panel d'activités assez large. Et le but, c'est vraiment évidemment de rompre l'isolement, qui est souvent très fréquent pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Mais ça va être aussi reprendre confiance en soi et se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses malgré la maladie.
L'isolement social, c'est plutôt une cause ou une conséquence?
Une cause et une conséquence, je
dirais. Les deux à la fois?
Oui.
Et comment on intègre un GEM? Parce qu'il faut quand même avoir du courage et du recul aussi pour pousser la porte, oser faire le premier pas.
Tout à fait. C'est vrai qu'on parle souvent de déni pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Et souvent, c'est une personne qui accompagne pour la première fois aussi. Ça peut être un infirmier, un psychiatre, mais aussi un proche, un infirmier, une assistante sociale. Enfin bon, pour franchir la porte la première fois. Mais en fait, c'est très facile de venir au GEM dans le sens où on ne demande aucun document administratif. Il n'y a pas besoin de reconnaissance de handicap ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est assez facilitant parce qu'on peut appeler le matin, arriver l'après-midi et puis c'est parti. Après, les personnes viennent vraiment quand elles le souhaitent.
Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont touchées. Est-ce qu'il y a quand même des signes avant-coureurs ou des symptômes des troubles psychiques? Comment on peut prévenir un petit peu de cette question-là et en prendre conscience qu'on peut être atteint d'un trouble, d'une fragilité? Je reprends les mots que vous avez employés, Angélique, ou carrément d'une maladie psychique? Sandra.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, en fait, on est tous susceptibles, en fait, d'avoir un jour une maladie psychique. Alors, pourquoi? Parce que la santé mentale, c'est un équilibre et nous sommes constitués de tout un tas de facteurs favorisants et au contraire de facteurs défavorables qui peuvent, à un moment donné, faire basculer cet équilibre vers la souffrance ou vers le trouble. Donc, est-ce qu'on peut anticiper en fait et prévenir l'apparition d'une maladie psychique? Pour certaines, oui, en limitant notamment les facteurs de risque. Alors, il y a le stress au travail, bien sûr. Donc, il y a tout ce qui détermine l'état de santé de la personne, l'accès aux soins, l'accès aux informations, à la prévention, etc. Et puis, il y a aussi toutes les ressources individuelles qui peuvent être accompagnées et renforcées tout au long de la vie. On parle de compétences psychosociales, c'est une espèce de boîte à outils qui va permettre aux personnes de traverser les étapes de la vie le mieux possible et de rebondir face à ces étapes. Donc, on n'est pas égaux face à ces problèmes-là, on n'a pas tous les mêmes facteurs de risque, certains on n'en a pas connaissance sur notre histoire familiale, personnelle par exemple, mais plus on va prendre soin de soi, comme le disait Angélique tout à l'heure, plus on va mettre de son côté des facteurs favorables, plus on a de chances de se rétablir, de traverser ces souffrances psychiques le mieux possible.
Donc il faut essayer en fait de soigner cette santé mentale avant que tous les facteurs défavorables arrivent. Essayer de...
Oui, il faut en prendre soin. Essayer d'en prendre soin.
Si la chute soit plus douce aussi, s'il y a chute.
Alors, s'il y a une maladie, mais tout à l'heure, on parlait de la schizophrénie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les troubles anxieux, la dépression. Donc, ils sont des maladies qui sont aussi stigmatisées, pour lesquelles on se dit souvent, c'est un manque de volonté. Alors que non, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps. Mais effectivement, plus on est armé en amont, plus on est entouré aussi, plus on va traverser cet épisode et reprendre une vie tout à fait satisfaisante.
Vous l'avez cité tout à l'heure et je l'ai un peu vu à travers les différentes recherches pour préparer cet entretien, que les conditions de travail étaient prédominantes aussi sur la favorisation de facteurs aggravants ou autres. Est-ce que aujourd'hui, là aussi, il y a davantage une prise de conscience? Je prends juste l'exemple avec un mot que tout le monde a entendu parler sur ces 5 dernières années, qui est le burn-out. On a l'impression que de plus en plus, on en parle et que c'est pris en compte. Mais pour aller jusqu'à une reconnaissance du burn-out, c'est encore compliqué aujourd'hui. Comment vous voyez la chose? Comment ça progresse? Est-ce que ça progresse positivement ou c'est encore trop lent.
Moi, je serais tentée de dire que c'est encore un petit peu lent. Nous, on voit arriver pas mal de personnes hein, au sein des GEM qui ont vécu ce burn-out. Mais il y a ce sentiment de honte qui est encore très, très présent, je trouve, chez les personnes. Et elles s'en veulent à elles, en fait. Alors que ben, c'est les conditions aussi autour d'elles qui...
Une honte de quoi ?
Honte de ne pas avoir réussi à surmonter le stress, le quotidien.
Comme si on n'avait pas le droit à l'échec.
Ouais, moi je trouve qu'il y a encore cette culture-là dans notre société actuelle. Hein.
Vous êtes d'accord, Sandra ?
Malheureusement, oui, et c'est aussi ce qu'on essaye de développer dès le plus jeune âge, en fait. Cette question de comment se positionner, d'être plutôt dans la collaboration plutôt que d'être dans la compétition. Voilà, c'est vrai que dès la maternelle, dès l'école, en fait, hein, y a un gros travail à faire sur le respect des différences, la tolérance et effectivement la collaboration pour que chacun trouve sa place avec ses points forts et ses points faibles.
Alors Laurent, moi j'aurais très envie qu'avec vous, on parle quand même un peu de l'UNAFAM. L'UNAFAM 63, qui je le rappelle est l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, parce que on parle souvent des personnes qui sont touchées, mais finalement en fait quand on parle de maladie ou de troubles psychiques, il n'y a pas que la personne impactée qui est directement touchée, il y a aussi toutes les personnes autour, les aidants, les accompagnants, les familles, et qui là aussi méritent qu'on les prenne en compte parce que bah, derrière, c'est peut-être elles qui derrière peuvent développer des problématiques.
Tout à fait. Quand on a un proche, donc un enfant, un frère, une sœur, un parent qui souffre de troubles psychiques graves, je citais tout à l'heure la schizophrénie, mais effectivement, ça peut être des troubles anxieux, des troubles bipolaires, de la dépression. Bien entendu, la première personne concernée, la plus en souffrance, c'est la personne qui est touchée directement, la personne qui est malade. Mais l'entourage est également très, très, très impacté. Voilà, quand la maladie arrive, c'est très compliqué pour l'entourage. Et dans 50% des cas, la famille elle-même développe des troubles psychiques ou des troubles somatiques. Donc, c'est extrêmement important d'accompagner les familles, non seulement pour que la famille aille mieux, mais également pour que le proche aille mieux. Quand la famille, alors c'est pareil, il y a des statistiques qui le montrent bien. Quand les familles vont mieux, quand la famille est accompagnée, quand elle est formée, quand elle sait mieux comment communiquer avec son proche, les proches vont mieux et la personne qui est malade va mieux également et son rétablissement est également favorisé.
Quand vous dites accompagner les familles, qu'est-ce que l'UNAFAM, par exemple, peut proposer concrètement ? Est-ce qu'il y a des techniques pour accompagner, aussi pour appréhender la maladie ?
Alors, des techniques, en tout cas, des outils, des formations. Nous proposons des accueils déjà dans un premier temps. Entendre les familles, entendre les souffrances qui sont fortes et parler de la maladie de son proche, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas naturel. On parlait de stigmatisation. La société, l'entourage n'est pas habitué à entendre parler de la maladie. Donc
mettre des mots, c'est déjà le premier pas.
Mettre des mots, tout à fait. Franchir le pas, aller par exemple à un accueil d'une femme ou aller voir son médecin ou un psychologue. C'est déjà un premier pas important. Une fois que ce premier pas est franchi, ensuite l'UNAFAM propose des outils, des accompagnements comme des groupes de parole, comme des rencontres avec des psychiatres ou des formations, diverses formations sur la connaissance de la maladie, de telle ou telle maladie, hein, schizophrénie, troubles bipolaires, comment mieux accompagner également et mieux communiquer avec son proche.
Je suis tombé sur une statistique assez alarmante quand même. Environ la moitié des troubles mentaux se manifestent avant l'âge de 14 ans. Alors, je ne pensais pas que c'était si jeune. C'est des statistiques que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce que c'est pas là le sujet finalement le plus tabou aussi ? Parce qu'on a l'impression que là, on soulève déjà des stigmatisations et des tabous en parlant de ce sujet-là. Mais la santé mentale chez les jeunes, c'est quelque chose dont on n'entend absolument jamais parler.
Ça revient un petit peu, je trouve que on en parle un petit peu plus aujourd'hui. Alors on sait notamment pour ce qui concerne la schizophrénie, les troubles bipolaires, que souvent ça apparaît à l'adolescence. C'est le moment où ça se déclare. Mais effectivement, là, on parle quand même plus de la santé mentale des jeunes, avec les formations d'ailleurs de premiers secours santé mentale pour les jeunes, pour qu'eux aussi sachent que ça existe et qu'ils peuvent demander de l'aide s'ils sont en difficulté.
Aujourd'hui, la communication est suffisante ?
Pas du tout. Non, non, enfin, moi je dirais que non.
Sandra ?
Non, on essaye de s'améliorer, mais c'est vrai que ça reste un sujet qui est quand même tabou. L'enjeu d'en parler, c'est justement de dire ben, ça peut arriver à tous, ça peut arriver n'importe quand, et plus on agit tôt, plus on repère précocement quelqu'un qui ne va pas bien, meilleures sont les chances de se rétablir, et ou voilà, même de, effectivement, qu'il n'y ait pas l'installation dans un trouble. Donc la période de l'adolescence est une période particulièrement fragile, où il se passe aussi beaucoup de choses pour les jeunes, hein, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan social. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de facteurs de risque à cette période-là précisément. Mais encore une fois, plus on en parle, plus on est accompagné, plus on repère tôt quelqu'un qui va pas bien, plus on agit et voilà, plus ça passe. C'est un caillou dans la chaussure dont on peut se débarrasser, quoi.
Justement, pour faire de la prévention, de l'accompagnement auprès des jeunes, comment on peut s'y prendre? Ça passe plutôt par des interventions dans les établissements scolaires, plutôt dans leurs clubs sportifs, essayer d'aller à leur contact sur les réseaux sociaux. Ça serait quoi la bonne formule s'il y en avait une?
Tout, en fait. Tout cumulé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui de plus en plus d'acteurs de la santé mentale sur les réseaux sociaux qui s'adressent aux jeunes. Il y a des séances de sensibilisation, de prévention dans les classes, donc portées par les établissements scolaires, par les services de santé. Il y a dans les milieux associatifs aussi de plus en plus de propositions autour du bien-être et de la santé mentale. Donc c'est en cours de développement, on n'est pas encore suffisamment opérationnel, mais c'est en cours.
Après, il y a les semaines aussi d'information sur la santé mentale qui favorisent justement des actions auprès des jeunes et de plus en plus d'actions auprès des jeunes. Donc ça, c'est un bon moyen aussi d'en parler.
Justement, on est en plein dedans jusqu'au 22 octobre et il y a énormément de choses, des projections de films, des apéros-débats, des après-midi intergénérationnels, des spectacles et tout ça, si on s'arrête au Puy-de-Dôme, sur Clermont, Amber, Yon, Issoire, Cournon, Outières, entre autres. Et ça fait énormément de choses et de rendez-vous à voir. Est-ce que malgré tout, c'est une semaine qui intéresse, en tout cas qui ne fait pas peur? Parce que ce sujet-là, c'est quand même, quand on met les mots santé mentale, on ne s'attend pas à quelque chose de tout de suite fun ou positif. On voit souvent ce que vous avez évoqué au début, à savoir la maladie, les troubles psychiques.
C'est pour ça qu'on parle de bien-être aussi souvent.
Oui, parce que le mot fait peur. Et les gens ont souvent une confusion, comme on dit santé mentale, maladie mentale, je ne suis pas concernée. Du coup, en tout cas, je ne veux surtout pas l'être. Oui, on a, nous, un gros enjeu au niveau de la programmation, et notamment dans la manière de présenter les actions et de donner les titres aux actions, de les rendre les moins stigmatisantes possibles et que chacun puisse se sentir concerné. Donc on multiplie les lieux d'action, on multiplie notre cible de public, on multiplie les approches, justement pour que chacun puisse intégrer que la santé mentale, c'est tous, tout le temps.
Alors j'ai consulté la petite carte de France, après les secteurs de Lyon, Toulouse et Bordeaux, c'est en Auvergne, principalement dans le Puy-de-Dôme et l'Allier, qui a le plus d'actions. Donc déjà, bravo à tous ceux qui mènent les actions et tous ceux qui portent les projets. Ce qui me fait poser cette question, qui propose des actions pendant ces semaines-là? Est-ce que ce sont que des structures ou absolument tout un chacun peut dire, j'ai envie de participer à cette semaine?
Alors, nous, on essaye, on a un petit collectif Clermontois et un collectif Puy-Dômois qui impulsons la dynamique des semaines d'information sur la santé mentale. Et on va chercher aussi les différents partenaires. Nous, on informe sur ces semaines-là, sur la thématique puisqu'elle est nationale et sur les dates. Et puis, chacun est libre de proposer des actions ou de les animer, d'héberger des actions. Hein, c'est le cas aussi de nombreux lieux sur la ville. Donc oui, tout le monde est libre de pouvoir venir nous solliciter en tout cas. Donc chaque année, on se réunit sur un forum d'ouverture. En fait, c'est aussi l'occasion de venir nous rencontrer pour proposer un sujet, une thématique, un lieu. On est vraiment ouvert en fait pour parler de cette santé mentale, comme je dis, à tous les âges et dans tous les milieux.
En tout cas, la question se démocratise, ça se développe. Et si on en prend l'exemple du GEM des Dômes, qui continue aussi de se développer.
Oui, tout à fait, puisque nous ouvrons un nouveau GEM à Rion le 23 octobre et un GEM itinérant à Saint-Éloi-les-Mines. Donc, on sera présent à Saint-Éloi-les-Mines une fois par semaine à partir de demain.
Sur ces territoires-là, parce qu'il y avait une véritable demande,
un
besoin.
Il y a une vraie véritable demande et au-delà de ça, il y a un véritable problème de mobilité pour les gens qui habitent sur ce secteur et qui n'ont pas la possibilité de venir jusqu'à nous. Donc on s'est dit que c'était à nous d'aller jusque là-bas.
Oui, c'est en tout cas une bonne démarche. Et puis, j'imagine aussi pas mal de choses du côté de l'UNAFAM. Laurent, vous, c'est des actions à l'année, tout le temps, et là aussi sur plusieurs secteurs.
Oui, tout à fait. Des actions à l'année sur, au départ sur Clermont, mais maintenant nous essayons d'être présents, notamment pour les accueils, sur Issoire, sur Thiers, sur Ambert, sur Yon. Voilà, oui, nous essayons de mettre en place, de nous rapprocher des besoins des personnes, d'être à l'écoute le plus près possible des personnes.
Et je reprends un peu la question que je posais à Angélique un peu plus tôt. La démarche, elle est simple. Les gens osent faire ce premier pas-là pour pousser la porte des maisons de solidarité ou d'associations pour venir vous voir.
C'est difficile, c'est difficile. Il faut une prise de conscience, il faut que les personnes se réalisent qu'elles ont besoin de faire ce premier pas, voilà, qui est compliqué. Ça dépend des personnes.
En tout cas, on ne peut pas dire que vous ne proposez pas quelque chose. Il y a des actions, il y a des choses qui se font et ça ne va qu'en progressant et c'est tant mieux. Pour toutes les informations concernant cette semaine d'information de santé mentale qui en fait se déroule sur 2 semaines jusqu'au 22 octobre et puis si vous voulez voir la petite carte interactive aussi avec l'ensemble des actions, vous pouvez aller sur le site www.semaine-santé-mentale.fr. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Merci.
Merci.